Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04 de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Nous sommes en direct, évidemment, le samedi et le dimanche. C'est un carton également en podcast. Mois après mois, on bat des records. Merci beaucoup de nous écouter aussi par ce biais-là. Vous allez sur toutes les différentes applications de téléchargement pour évidemment nous écouter tranquillement le samedi après-midi, le dimanche après-midi ou tout au long de la semaine. Ce matin, Simon Dutin, Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Jérôme Pinot. Dans quelques instants, on va parler de Ferrari qui court toujours après son premier podium de la saison. Peut-être ce soir pour la cinquième manche en Arabie Saoudite. En tout cas, les pilotes, vous allez les entendre, sont frustrés. Est-ce que ça sent la saison Qatar ? 11h30, les propos de Bernard Hinault hier sur le dopage dans les GG du sport ont beaucoup fait réagir. Alors nous allons en reparler aujourd'hui. On vous attend évidemment au 32-16, 11h45. Le débat caché, BGG, vous ne savez rien et pourtant il va falloir débattre sur un thème d'actualité. Vous savez quoi ? On va débuter avec une citation que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup parce que c'est des inconnus qui ont pu dire ceci. Ils ont dit, deux points, ouvrez les guillemets. Mais écoutez bien, ils ont dit, c'est le mimi, c'est le rara.
C'est le rara.
C'est la même merde.
C'est la même merde.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
The seven-time world champion. The one, the only, Sir Lewis Hamilton.
Le jeune Lewis Hamilton est un diamant brut.
Je suis jamais satisfait à part quand je gagne vraiment.
Ses performances en karting font parler de lui.
Oh yes, ladies and gentlemen.
On n'est même pas sur le podium, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal.
Le Britannique était même proche en 2021 de devenir le pilote le plus titré de l'histoire.
Faire quatrième, ça fait toujours un petit peu mal.
Il était sûrement l'heure de fermer ce chapitre mémorable.
Quand il y a une légende comme Lewis, c'est normal que toute l'attention se concentre sur lui.
Oh, ça va.
Vous avez entendu son rire, coquin, c'est Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut Jean-Luc.
J'ai toujours le rire coquin. Salut Jean-Luc. J'ai pas pu le rire, ah ça y est, on commence.
Tu plonges tout seul, c'est
tout
magnifique.
Tout seul.
Alors, aucun podium, mon cher Jean-Luc, quatrième au classement constructeur, loin derrière McLaren et Mercedes. Et oui. Le début de saison des rouges est loin d'être rose pour le cinquième épisode de la saison ce soir en Arabie Saoudite. Charles Leclerc partira quatrième, Lewis Hamilton septième, loin des envies, hein, il faut le dire clairement, des deux pilote Ferrari qui commence à s'impatienter, à l'image du Monégasque hier devant le micro du diffuseur Canal+.
C'est encore décevant, je suis déçu encore une fois, mais bon, c'est comme ça depuis le début de la saison et on n'a pas la perfo que voulu, donc voilà, le tour était très bien, voiture très compliquée à conduire, mais on réussit à faire le max, mais bon, malheureusement, la perfo est pas là, on est encore une fois 4 dixièmes ou ouais, 3 dixièmes 8, donc il faut qu'on bosse.
Dans ce contexte pour demain, qu'est-ce que vous espérez ?
Pas grand-chose.
Voilà, c'est cash, c'est clair, il n'espère pas grand-chose. Lewis Hamilton, lui, de son côté, il n'y arrive pas, il constate son impuissance.
J'ai eu du mal tout le week-end ici. Je manque de vitesse, j'essaie de prendre confiance dans la voiture, mais je n'ai pas vraiment réussi. Je continue de travailler, ce n'est pas aussi abordable qu'avant. À la belle époque, les choses arrivaient facilement. Je ne trouve pas ça pour l'instant.
Eh oui, c'était plus facile avant. La musique qui fout les jetons est cette question, mais GG. Est-ce que la saison peut tourner à la cata ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Marion Bartoli ?
Non.
Philippe Saint-André ?
Non.
Jérôme Pinault ?
Non.
Ok, j'ai trois noms, j'ai un oui. Jean-Luc Roy, oui ou non ?
Jean-Luc, fais attention à ce que tu dis.
Ah, oui, oula, je suis sous surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cata ? Tu vois, je vais déjà faire mon ordre.
Non, oui non, ou non ? Après, t'expliqueras.
Non, la cata, non.
La cata, non.
Non.
Alors, justement, Jean-Luc Roy, tu es avec nous. Comment déjà expliquer ce début de saison très moyen des Ferrari ?
Alors, il y a plusieurs raisons. On va essayer de faire bref. Je ne sais pas le faire, donc je vais faire long. Non, la première chose, c'est que déjà, les monoplaces n'ont jamais été aussi proches, et les pilotes les uns des autres. C'est absolument incroyable. Je suis la Formule 1 depuis quelques dizaines d'années, allons-y. Je n'ai jamais vu ça. C'est de la moto, c'est même encore plus resserré parfois que les grilles de MotoGP que je suis de près. Ça n'est jamais arrivé en Formule 1. Donc ça veut dire que vraiment, la plus petite imperfection, le plus petit détail, pèse lourdement sur le résultat, comme l'a expliqué Charles il y a un instant, on est à 3 dixièmes, on est largué. Avant, à 3 dixièmes, on était deuxième. Il y avait le gars qui avait la pole, et si on était à 3 dixièmes, on était tout le temps deuxième sur la grille.
Là, la pole s'est jouée à 10 millièmes.
Hein. Ça se joue à rien du tout. Maintenant, effectivement, bon, ça c'est la première explication. Maintenant, ça c'est la compétition dans beaucoup de sports, et vous le savez mieux que
les
moi.
Les taux se resserrent.
Les taux se resserrent, ouais. C'est exactement
ça. Les niveaux
ça.
Par le haut.
C'est exactement ça. Donc, c'est pas exceptionnel. Deuxième facteur, on est à un point crucial au niveau technologique, là, puisque le règlement change, vous le savez, en 2026, je vais pas en faire des tonnes. Donc, ça veut dire que les écuries, alors, impossible de savoir à quel niveau, ont ou pas investi sur le développement de la version 2024, qui est devenue la 2025 pour la dernière année, avant d'attaquer 2026, qui est absolument crucial pour l'avenir, à plein de niveaux. Donc, Ferrari a des moyens considérables, comme Mercedes, comme Red Bull, évidemment.
Donc, Ferrari se prépare surtout à la saison prochaine.
Alors,
c'est vrai que tu nous
dis. Je ne peux pas me permettre de le dire. Seul Frédéric Vasseur pourrait le dire. Je sais même pas si les pilotes savent vraiment, sincèrement, et c'est pas leur problème. Eux, ils font avec ce qu'ils ont. Donc, en d'autres termes, et j'en reviens aussi à ça, c'est compétitif, c'est-à-dire que, en fonction du progrès des autres, en fonction de l'évolution des autres, eh bien, on régresse. C'est pas qu'on régresse, c'est que les autres progressent plus vite. Or là, on a une écurie qui domine McLaren. Ça va pas faire plaisir à Lando Norris. Tant pis pour lui, mais Oscar Piastri, lui, le dit, c'est la meilleure voiture. Alors attention, là, à Barcelone, c'est-à-dire très bientôt, dans 4 Grands Prix maintenant, on aura une application, c'est là que la Formule 1 parfois échappe à tout le monde, y compris à moi, on aura une application stricte du règlement concernant les moustaches avant qui, vous le savez, se plient un peu. C'est très technique, mais vous l'avez vu sur les cams embarqués, on le voit, la moustache avant, elle s'efface, c'est interdit, c'est un dispositif aérodynamique mobile. Certains l'exploitent mieux que d'autres. En Formule 1, on est toujours aux limites du règlement, voire un peu au-dessus. Mais tant qu'on n'est pas pris, on n'est pas pris. Donc, évidemment, les adversaires de McLaren disent que ça vient de là. Ferrari, ça va être terrible ce que je vais dire, mais ne triche pas, ne triche pas. Ferrari ne peut pas tricher. Fred Vasseur n'est pas un tricheur. Et pourtant, ils ont été pris deux fois et déclassés pour un kilo, vous le savez, il n'y a pas longtemps, et pour une plaque usée, d'ailleurs par parenthèse, vous avez vu comment ils passent sur les vibreurs là à Jeddah, ils sont obligés pour faire un temps. Donc il va falloir, je pense que toutes les écuries ont dû épaissir la plaque en bas pour pas se retrouver dans un cas comme celui-là. Bref, je termine ma longue explication pour dire que c'est pas que Ferrari est mauvais, c'est que Ferrari n'a pas progressé aussi vite que les autres. Mercedes, qui déjà en fin de saison dernière, on l'a vu avec Russell, était vraiment bien. Mercedes est toujours bien. Donc moi, j'ai McLaren, j'ai Mercedes, j'ai Ferrari en troisième et j'ai Red Bull, puisqu'on parle d'écurie.
Bah, j'ai
et là, c'est... voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis... C'est Verstappen qui fait la différence, c'est pas l'écurie. La différence. Voilà donc ils sont troisième.
Jean-Luc, ce qui est inquiétant quand même, c'est que c'est des bons conducteurs, ils disent que la voiture est difficile à conduire.
Oui, parce que
sincèrement, parce que Hamilton, il dit la même chose avec des termes différents, mais il dit la même chose.
Absolument. C'est-à-dire qu'elle est instable, elle n'est pas constante. Le problème d'une voiture, comme tu le sais bien, dans tous les domaines, quand tu as des éléments que tu retrouves systématiquement, alors ils n'ont pas le même style de pilotage. Lewis l'a dit, il a dû modifier son style de pilotage pour l'adapter à la Ferrari, ce qu'on peut comprendre. Il y a deux éléments majeurs. Le moteur, il a fait toute sa carrière avec des moteurs Mercedes.
Mais il n'y arrive pas, là.
C'est rien du tout ce qui lui manque. Hein. Là, il est à 4-5 dixièmes.
Ah, mais dans le sport de haut niveau, et
c'est un gouffre
dans
entre deux équipiers. C'est un gouffre, malheureusement.
Et les freins.
Il y a certains rentrent sur les freins, comme on dit dans les virages. Donc, il faut un train avant très rigide pour placer l'auto. Tant pis si l'arrière se barre un petit peu. Ils se débrouillent avec ça. Et d'autres pas. Il leur faut une voiture qui soit neutre.
Ok, alors toi, tu es l'expert, tu nous apportes la moelle pour qu'on puisse en parler.
C'est un peu technique, je suis désolé,
mais c'est ça.
C'est
important que tu le sois technique, parce que justement, on propose à tous les auditeurs d'essayer de comprendre les imperfections de Ferrari. Mais pour le côté un peu plus grand public, pourquoi vous avez un peu peur, pourquoi vous êtes déçu par Ferrari en ce début de saison, Simon Dutin?
Ouais, parce que Ferrari, c'est le Real Madrid de la Formule 1, c'est l'image de ce qu'on disait sur l'OM, il y a un effet de loupe sur leur performance. Ferrari, ça gagne, et si ça gagne pas, c'est décevant. Alors tu dis catastrophe, il y a l'intégration en effet d'Hamilton, parce que moi je vais pas rentrer dans les considérations techniques, je suis allé me documenter un petit peu. En effet, Jean-Luc l'a rappelé, Mercedes qui était déjà devant eux l'an dernier a progressé et a fait des améliorations meilleures que celles que Ferrari a opérées. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée pour intégrer Hamilton et dans la com autour de l'arrivée d'Hamilton. Je disais c'est le Real Madrid parce que on a envie de voir tous les grands champions dans cette écurie. Mais dès que ça gagne pas, bah forcément ils sont pointés du doigt. T'es pas à l'abri que si Hamilton est dans le rétro de Leclerc toute la saison, bah ça finisse par causer des problèmes. Même si pour l'instant Hamilton est remarquable dans ses déclarations, sa communication. Donc voilà, j'attends de voir. Je m'en remets. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc. Peut-être qu'il vise plutôt la saison prochaine, mais je trouve ça un petit peu surprenant. Ils sont quatrième au classement des constructeurs, donc pour moi, ils sont pas troisième comme Jean-Luc, ils sont quatrième. Voilà,
oui, parce qu'en face, il n'y a qu'un pilote chez Red Bull pour le moment. Et puis, j'allais dire une chose, il y a eu la toute petite embellie, mais il faut quand même le rappeler, la sprint race.
Oui, il a gagné, Hamilton,
le sprint race. Il a gagné. Donc là, ils ont
gagné quelque chose.
Et voilà, j'allais dire ça, c'est ce qui éclaire un tout petit peu le début de saison.
Ils ne peuvent pas s'en contenter.
Non,
les Tifosi ne peuvent pas s'en contenter.
Bien sûr que non. Mais on ne va pas s'en contenter.
Jérôme.
Non mais moi je pense que avec le talent des deux pilotes, et non pas des conducteurs, moi je pense que c'est les pilotes. Avec le talent des deux pilotes et la capacité à Ferrari à s'adapter vite pendant une saison, et ils l'ont démontré par le passé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la progression. Hamilton ne va pas rester dans ce rôle-là. Charles Leclerc est un excellent pilote, l'un des tout meilleurs pilotes du monde. Donc je pense qu'il y aura réaction. Donc on ne passera pas par la cata. Maintenant, s'attendre à ce qu'il puisse lutter avec les McLaren, ça, là, il y a un gouffre. Malgré le temps qui se rétrécit, c'est un peu dans tous les domaines, il y a quand même un gouffre. Ça finira par être un gouffre. Mais en tout cas, saison catastrophe, non. Si on prend à l'échelle de la catastrophe la saison dernière d'Alpine, par exemple, Ferrari ne fera pas une Alpine.
Voilà,
ça, c'est une cata.
Oui, il n'y a pas les mêmes attentes.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
Ah, c'est évident. Oui. L'an dernier, ils avaient remporté 5 grands prix, hein, Ferrari, au total.
Ouais, ouais. On en est à zéro, mais c'est aussi le début de saison. Et on a un super pilote qui est arrivé, qui a gagné un sprint. C'est qu'il va falloir s'adapter. Ce qui est important de retenir, c'est Hamilton qui dit l'an dernier, jusque-là, pour moi, c'était rapide et facile. Et cette année, ça ne l'est pas. Ouais. Voilà. Il n'arrive pas à trouver ses marques.
Et juste,
lorsqu'il les aura trouvées, je pense qu'on pourra compter sur lui sur chaque Grand Prix quasiment.
Un corollaire et un parallèle avec un autre pilote qui n'a pas son palmarès, mais qui est considéré par tous ses pairs comme un des meilleurs, Carlos Sainz, qui justement Lewis a remplacé ou à qui il a succédé chez Ferrari, avait du mal chez Williams. Ça y est, ça commence à marcher. Donc il faut, malgré tout le talent de ces types-là, malgré tout ce qu'ils peuvent apporter, mais il faut une symbiose.
Du temps.
Et voilà.
Et comme l'a dit Simon, je pense qu'on s'est beaucoup concentré aussi sur l'arrivée chez Ferrari de Lewis, de la star, du pilote.
Oui.
Et peut-être un peu moins de
pas l'équipe,
la perf directement.
Je peux te dire que Fred Vasseur, lui
il a bossé,
pas l'équipe.
Demandez de la patience. Avant d'écouter Marion, je vous propose d'écouter Frédéric Vasseur hier au micro de Canal+, parce que justement, on lui a dit, vous demandez de la patience. Écoutez la réponse amusante, mais un peu cinglante de Frédéric Vasseur.
Je ne me permettrai pas de vous demander quelque chose. De toute façon, vous n'écoutez pas, donc.
Moi, je vais y aller.
Non, mais ce n'est pas de la patience, parce que je pense qu'il a été capable de mettre tout dans l'ordre en Chine. C'était la deuxième course, je crois. Donc, ce n'est pas de la patience. C'est qu'aujourd'hui, depuis le début du week-end, il galère un peu plus avec la balance que Charles et que ça fait vite de gros écarts, au moins en position, parce que des fois, en 2-3 dixièmes, il y a 6 voitures. Donc. Donc voilà, pour l'instant, on ne met pas tout dans l'ordre, mais ce n'est pas de lui laisser le temps d'apprendre. Le samedi soir en Chine, personne ne me parlait de ça.
Et voilà, la réponse un peu cache. Voilà.
Il y a toujours de l'humour.
De Frédéric Vasseur, mais on le sent un peu Marion.
Non, mais il a raison. Et puis en plus, j'ai eu la chance de le recevoir deux fois. Et on l'avait reçu ensemble, rappelle-toi, JC.
Exactement.
Quand on l'avait interviewé. Il a ses plans en tête, Fred Vasseur. Il sait très bien où il va. Il voit qu'il y a effectivement quelques petites difficultés de réglage sur la voiture. Il n'est pas complètement idiot. Alors, malheureusement, sur les essais qualificatifs, ça a un gros impact sur la place sur la grille que tu as pour chaque voiture. Mais je pense qu'en course, ça peut un peu plus se régler. Je pense aussi, il le sait, il nous l'avait dit, que c'est pas forcément le début de saison qui va donner le ton pour jusqu'à la fin de la saison, puisque finalement, même sur la saison précédente, Ferrari était vraiment largué au début. Et puis, le championnat constructeur s'est joué sur le tout dernier Grand Prix à Abu Dhabi, où ils ont perdu pour quasiment presque rien sur McLaren. Ils ont failli être champions des constructeurs. Donc, la saison est extrêmement longue. Aujourd'hui, on les joue sur 4 courses, puisque finalement, ils ont été disqualifiés. Ferrari était disqualifié, donc les deux pilotes ont été disqualifiés sur un Grand Prix dans sa totalité. Donc, ils sont jugés que sur 4 courses. Je trouve ça quand même extrêmement sévère de juger Lewis Hamilton qui arrive dans une écurie, une voiture totalement nouvelle sur 4 courses, dont en plus il a gagné une course sprint. Alors qu'effectivement, on soit habitué à des performances extraordinaires de ce champion totalement hors norme, je suis d'accord, mais il faut quand même lui laisser le temps. Et puis, je pense aussi qu'ils ont vraiment une vision à long terme. Et ça, pour l'avoir interviewé, si tu lis un petit peu entre les lignes, il l'avait quand même dit, le changement de règlement qui va être absolument majeur pour la saison prochaine, avec des changements de règlement qui sont vraiment extrêmement importants sur les voitures, où tout le monde va repartir de totalement zéro, mais encore plus que d'habitude. Je pense que là, ils se disent qu'ils ont peut-être une petite longueur d'avance. Donc, attendons le reste de la saison. Ils ont quand même deux pilotes. Alors, l'un avec un palmarès énorme, l'autre avec aussi beaucoup de talent, peut-être un palmarès moins important, mais avec un talent qui est très important, et Charles Leclerc qui monte l'écrou chaque semaine et qui a envie de performer. Moi, j'y crois largement. Quand on voit la capacité qu'ont ces deux pilotes l'année dernière, Hamilton qui va quand même gagner le Grand Prix chez lui à Silverstone dans des conditions difficiles, Charles Leclerc qui gagne, en tout cas Ferrari qui gagne à Monza, je crois que c'est Leclerc qui gagne à Monza.
Oui, oui, absolument, à Monaco et Monza. Monaco et Monza.
Exactement, donc en gagnant chez lui dans son pays à Monaco et dans l'écurie devant les tifosi à Monza, je crois qu'ils ont quand même des capacités de rebond qui sont extrêmement importantes et je pense qu'ils ne vont pas nous décevoir.
Ok, donc on peut, c'est quoi, on sort de là, on se dit qu'on est rassuré ou pas?
Oui, bah écoute, de toute façon, c'est pour ça que Fred, avec cet humour caustique qu'on aime, qu'il est.
Mais tu sais qu'il avait appelé une fois Marguerite à la place de Margot. Quand même.
Oui, bah oui, mais bien sûr. Mais c'est son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Marguerite.
Ok, vous parlez
de
Margot.
Elle se fait appeler Margot Lafitte. Okay. Oui, bon, c'est pour rigoler. Donc c'est pas le sujet.
On aime bien.
En attendant, effectivement. Fred, il demande du temps. Quand il est arrivé aux commandes de Ferrari, c'est pareil. Ah là là, il a dit, laissez-moi 2-3 ans pour construire l'équipe. Là, il l'a construite. Encore une fois, on ne va pas sacrifier, parce qu'on s'appelle Ferrari, on ne peut pas sacrifier la saison 2025 au profit de la saison 2026. Et comme je l'ai dit, on a dédié les forces. Après, ils sont bien meilleurs, malgré tout, en course, qu'ils ne le sont en qualif. Parce qu'en qualif, évidemment, c'est le rasoir. Hein. Là, c'est bim. Alors qu'on a vu en course, exactement, Lewis partir plus loin sur la grille et régulièrement remonter et se classer mieux.
Il a fait 5e à Bahreïn.
Exactement. Et avec des temps. Donc non, ça peut pas être la cata. Maintenant, on aimerait les voir sur le podium déjà, parce qu'on l'attend.
Tu paries sur un podium là ou pas là?
Alors là, écoute, à la performance, Charles l'a dit lui-même, je vais pas dire non.
Il dit quand 4e. Même, j'attends pas grand
voilà,
chose.
Voilà, il attend pas grand chose. Maintenant,
difficile de dépasser.
S'il y en a un qui a un problème, et à Jeddah, ça peut arriver, parce que vous avez vu qu'il passe quand même à quelques millimètres des murs. Tout peut arriver, à tout moment. Oui, il peut monter sur le podium. Et puis Lewis peut revenir, top 5, hein, c'est son objectif.
Ok, Mickaël nous appelle au 32-16. Il veut nous parler de Ferrari, parce qu'il est fan de Ferrari. Salut Mickaël.
Oui, bonjour.
Bonjour. En tant que fan, est-ce que tu es déçu ou est-ce que tu es patient, aucun problème?
Je suis déprimé.
Ah, voilà.
Je suis déprimé. Je suis un peu comme Leclerc quand il sort de sa voiture qui dit que ça va pas. Je suis déprimé comme Hamilton quand hier il a dit, je sais que tout le monde attend, les fans, les médias, mais je fais de mon mieux et je peux rien faire de plus. Voilà, je suis un peu déprimé. Ça chauffe le chaud et le froid. On était tous excités après la sprint que Lewis gagne. Et en fait, j'en viens même à la limite à trouver Verstappen sympathique maintenant. C'est terrible. Donc, moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils peuvent jouer pour les trois premières places. Voilà. Moi, c'est ça qui m'ennuie le plus. Et chaque week-end, c'est pareil. Il faut un exploit ou il faut une safety car. Et j'ai pas l'impression qu'ils pourront jouer le championnat constructeur comme l'année dernière. Et on était tous dans l'excitation, Lewis avec Charles, avec Fred Vasseur. C'est une super équipe. En plus, nous, en tant que Français, on les adore. Mais franchement, c'est moi, je suis déprimé, quoi. J'espère qu'il va y avoir un rebond. On l'espère tous. Mais dire la patience, non, on en a eu assez. Je pense qu'on en a eu assez. Donc maintenant, il faut qu'ils se sortent les doigts.
Non, mais là, je suis d'accord, Mickaël. C'est-à-dire que le coup de la patience, ça ne pourra pas durer éternellement, parce que ça fait quand même longtemps que les tifosi attendent.
Le temps de l'adaptation, c'est aussi le temps de l'adaptation.
Non, mais attends, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas eu un pilote.
Oui, ils attendent, bien sûr, ils attendent le titre. Hein, c'est normal.
Le dernier titre, c'est Felipe Massa.
Alors, non, c'était Kimi Raikkonen en 2007 et 2008, c'était constructeur. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps. On peut, je comprends
trop longtemps.
Je comprends tous les passionnés. Et puis, quand on est passionné, on est irrationnel et c'est normal et on est impatient. C'est quand même une saison à 24 Grands Prix. Moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas une opportunité. Alors, dans l'état actuel des performances, je ne vais pas vous vendre ce qui n'est pas vrai. Dans l'état actuel des performances, ils sont dominés. Maintenant, chez McLaren, là aussi, Zach Brown, je rappelle toujours ça, donne des leçons à tout le monde parce qu'il fait le cador, parce qu'ils ont la meilleure voiture. Mais ça peut changer. Je parlais tout à l'heure du règlement appliqué à partir de Barcelone. Peut-être que McLaren va perdre les 2-3 dixièmes qu'ils ont d'avance sur tout le monde. Ça, et voilà. Ça, et là, ça va relancer le débat. Tu vas voir les deux comment ils vont s'arsouiller. On a compris déjà, Norris, il fait la gueule. seul. Là, il s'est mis dans le mur, donc il part loin derrière. Piastri est en train de prendre la main. Ça, je l'avais dit dès l'an dernier. Attention, Norris, ok, c'est le Golden Boy, britannique en plus, chéri par les médias et tout ce qu'on veut. L'autre, il en a rien à faire. T'as vu la tête qu'il fait quand il a pas la pole? Même là, le fait de s'être fait piquer la pole pour un centième, il était vert de rage, orange de rage. Donc, non, c'est un teigneux, c'est un méchant.
C'est vrai que je l'avais interviewé pour la BBC, il a pas beaucoup de charisme, notre ami Piastri. Hein.
Bah non, mais il garde ça pour lui, tu sais. Si tu vas par là, et t'as raison, Marion, Verstappen non plus, il fait pas de cinéma, il en a rien à foutre. Lui, il pilote, comme il a dit, là, tout le monde parle. Et il va où? Chez Aston, chez machin. Il dit, moi, je m'en fous, je m'occupe de la voiture, j'essaie de tirer le mieux.
Aston pour 80 millions par an, ça fait quand même envie, hein.
Oui, bah.
Et il a signé en tout cas la pole position et on reparlera de Verstappen. En tout cas, le Grand Prix ce
Ferrari
soir.
Ferrari va tirer les marrons du feu à un moment ou à un autre, comme ils l'ont fait en Chine avec la sprint.
Ok,
voilà.
Le Grand Prix ce soir, c'est 19h. Hein.
Oui, c'est 19h.
19h.
Ce soir. Bah, on va se retrouver, Marion, ce soir.
D'Arabie Saoudite, vous vous retrouverez dans Bartoli Time à partir de 19h30, évidemment, comme tous les dimanches. Il est 11h24. Merci beaucoup, Jean Lecroix.
C'est un plaisir
d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué justement cette philosophie où on en tout cas, ces points techniques très importants pour comprendre la Formule 1. Merci à Mickaël d'avoir composé le 32-16. On se retrouve dans quelques instants pour un moment important parce que l'interview hier de Bernard Hinault a beaucoup fait réagir. Donc, on vous attend au 32-16. On va rediffuser évidemment ses propos sur le dopage et vous nous direz évidemment ce que vous en pensez. A tout de suite sur AMC.
Décidément, regardez bien, c'est vraiment la quinta, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe.
C'est le mimi, c'est le rara et c'est... C'est la même merde.
RMC jusqu'à midi.
Oh, la route est à tout le monde, hein.
Les grandes gueules du sport.
Tu sais qui je suis ?
Sam Blaireau.
Jean-Christophe Drouet.
11h28 de retour dans les grandes gueules du sport, ensemble jusqu'à midi. Et oui, c'est le blaireau qui était hier en direct dans le studio RMC pendant une heure. Bernard Hinault était notre invité exceptionnel et on va en parler dans quelques instants parce qu'il y a des propos qui ont beaucoup fait réagir. Toujours avec Simon Dutin, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Philippe Saint-André. Et donc, le GOAT, comme on l'appelle. Il fête ses 60 ans aujourd'hui et forcément, on avait envie de l'avoir dans cette émission. Pas trop tôt, m'a-t-il dit. 11h30, 11h28, c'est un horaire, respectable, non? On peut le dire comme ça. C'est Christophe Cessieux.
Futur retraité, ça va.
Salut Christophe.
Futur retraité, comment ça, futur retraité? Merci les copains. Merci les copains.
Joyeux anniversaire.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Christophe.
Magnifique. Alors déjà qu'il pleut là où je suis, si vous pouviez arrêter de chanter tout de suite, ça m'arrangerait quand même. Hein.
C'est vrai qu'on ferait pas les choristes. Joyeux anniversaire, mon cher Christophe. 60 ans quand même, c'est pas rien. Ouais. C'était important de t'avoir dans cette émission. Qu'est-ce que ça fait là? Dis-nous tout.
Bah, ça fait mal à la tête surtout parce que quand tu fais la fête la veille à 60 ans, ça fait beaucoup plus mal à la tête que quand t'as 20 ans. Donc voilà, mais bon, je suis habitué, tu sais, j'ai un bon rythme. Hein. Je t'ai entendu tout à l'heure, j'ai réécouté le début de l'émission. Merci les copains, merci, ça fait très plaisir de se sentir apprécié, de se sentir aimé et de se sentir chambré quand même surtout.
Mais exactement, parce que forcément, on te taquine, mais on aime tellement quand t'es dans cette émission et quand t'es pas là, bah tu nous manques et on avait envie de t'avoir dans cette émission et de t'avoir aussi parce qu'on va parler de Bernard Hinault dans quelques instants et je sais que bah, tu vas forcément avoir un avis éclairé aujourd'hui dans cette émission. Sache juste que tu es quand même en congé, hein, c'est pas payé tout ça. Hein. C'est juste pour te souhaiter un bon anniversaire. Hein. Va pas réclamer une prime demain, ok? 60 ans, incroyable Christophe Cessieux. Allez tout de suite, on parle de Bernard Hinault. Donc nous revenons sur ces propos hier dans les grandes gueules du sport, des propos sur le dopage qui ont été repris partout, qui ont beaucoup fait réagir. D'ailleurs tous les copains du vélo sur X, hein, sur notre compte des grandes gueules du sport ont beaucoup réagi. Mais comment vous pouvez laisser dire ça? Mais attendez, il disait pareil. Alors déjà, sachez les copains que Bernard Hinault a gagné 5 Tours de France, donc s'il a envie de dire quelque chose, il le dit. Et il a bien le droit de le dire. Après vous avez bien le droit aussi de ne pas être d'accord et d'appeler dans cette émission et d'appeler le 32-16. Donc pour les plus courageux, faites-le, on vous attend. Alors donc, la légende du cyclisme français était notre invité hier pour le lancement des championnats du monde en France qui auront lieu à l'été 2027, dont il est l'ambassadeur. Bernard Hinault, avec lui, nous sommes revenus sur les suspicions encore et toujours autour des performances de Tadej Pogacar, à l'image de Jean-René Bernodeau, patron d'écurie, qui cette semaine sur RMC demandait au champion slovène de publier tous ses paramètres pour lever tout soupçon de dopage. La réponse hier de Bernard Hinault, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Pourquoi ce sont toujours les Français qui mettent le doute? C'est bizarre. Non?
il y a que les Français. Ouais. Il y a que les Français qui mettent le doute. Jamais, hein, les équipes italiennes, les équipes espagnoles, les équipes belges.
On est mauvais perdant ou on est toujours abasourdi par la râleur, Christina.
Je pense qu'on a des râleurs et puis parce qu'on gagne pas, c'est les autres ils trichent. C'est quand même terrible ça. Il est peut-être contrôlé plus que les autres justement parce qu'il a des performances. Il faut qu'ils arrêtent un peu de temps en temps. Ils sont en train de tuer leur propre sport. Ils pourraient fermer un peu leur gueule de temps en temps. Ça ferait du bien.
Et voilà, ils pourraient fermer un petit peu leur gueule de temps en temps. Est-ce qu'il faut arrêter d'être suspicieux ? C'est notre question. Pour revenir sur ces propos, oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Jérôme Pinault ?
Non.
Philippe Saint-André ?
Oui, parce que j'adore ces sans-filtre, oui, donc.
Marion Bartoli ?
Oui, mais avec des nuances.
Christophe Cessieux ?
Non, il faut toujours avoir le doute.
Ben Christophe, tu commences. Comment tu réagis par rapport à ces propos de Bernard Hinault ?
Alors, par rapport aux propos de Bernard, je pense que Jérôme, ça doit lui rappeler quelque chose, parce que lorsque Jérôme était encore coureur, Bernard avait déjà ce discours, parce qu'à l'époque, tu sais, on disait les coureurs français ne gagnent pas parce qu'eux, ils sont à l'eau claire. Et il travaille pas, à la différence de tous les autres. Et déjà, il s'en prenait au coureur français. On peut pas lui reprocher à Bernard Hinault de changer de veste et de retourner sa veste régulièrement. Il a un discours qui est le même depuis des années pour lui. Je me rappelle moi d'une émission qu'on avait fait en 2013, je crois, au départ du Tour de France en Corse, où on faisait un duplex pour BFM Télé. Et donc, Bernard était l'invité. Et Christophe l'interrogeait sur les propos que venait de tenir Lance Armstrong, qui racontait des choses dans le journal Le Monde. Et il est allé 3-4 fois l'interroger là-dessus. Hinault a dit, la prochaine fois que vous me posez une question encore sur le dopage, je m'en vais. Et Delay est revenu encore une fois là-dessus et il s'est cassé. Il a quitté le duplex. Il est parti d'un seul coup. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de Bernard Hinault. Il ne supporte pas que l'on mette le doute sur le vélo en tant qu'ancien champion. Il a ce discours. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, on reproche aujourd'hui aux journalistes de ne pas lui être rentré dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Bernard Hinault ? Tu acceptes qu'il soit ton invité. Tu sais que de toute façon, il aura ce discours. De toute manière, il est comme ça. Il a cette position. Il ne veut pas douter des performances. Des grands champions. Il ne doutait pas d'Armstrong avant que celui-ci tombe. Donc, soit tu ne l'invites pas, soit tu acceptes qu'il ait ce discours.
Pardon, Pogacar, il y a peut-être des soupçons, mais il n'y a aucune preuve sur lui. Moi, je veux bien qu'on dise oui, mais il faut rentrer dans la contradiction avec Bernard Hinault. Je vais lui dire quoi, Bernard Hinault ? Bah, attendez, Pogacar est dopé, c'est ça que je vais dire à Bernard Hinault ? C'est quoi les preuves ? Bah, apportez les preuves si vous en avez, les copains.
Oui, et puis Bernard, il y a ce qu'il dit et ce qui est. Moi, j'ai. À l'époque, ils nous critiquaient beaucoup, les jeunes coureurs, les Français, on ne sait pas faire. Hélène s'y va à la montagne, il roule dans l'école enneigée. Bon, il y a eu l'affaire. Et l'année d'après, il était invité en Australie. Moi, j'ai passé une semaine avec lui en Australie. On a beaucoup discuté tous les deux. D'ailleurs, on est devenus pas copains, mais il était parrain de mon équipe derrière. Je lui ai dit, mais Bernard, ça fait hyper mal. Il me dit, je m'en rendais pas compte, moi, que ça vous faisait du mal. Il est comme ça, il est brut. Aujourd'hui, les gens qui nous disent à nous, fallait lui rentrer dedans hier. Mais ils ont des preuves. Ils savent que Pogacar il fait des choses et pourquoi Pogacar en ferait certaines et Mathieu Van Der Poel qui parce que papy est français et que s'appelle Raymond Poulidor lui ça va ouais. C'est soit tout le monde soit personne on peut pas faire cette différence là on rappelle juste que par le passé le vélo a pas toujours été dans la bonne spirale donc évidemment qu'il faut avoir toujours la suspicion c'est pas la suspicion c'est le doute préserve le fait qu'on soit vigilant. Après, sur les déclarations de Jean-René Bernodeau, il est à côté de la plaque. Il peut pas dire ça. Là, aujourd'hui, où il en est, sur quelqu'un qui ne connaît pas. Et effectivement, moi, je rejoins Bernard. Là, c'est très franco-français. C'est-à-dire qu'on gagne pas. C'est forcément que les autres trichent. Mais aujourd'hui, on peut le constater. Et surtout, Jean-René, et dans d'autres équipes françaises, c'est pareil. Moi, à l'époque, je me serais mal vu avec mon équipe qui performait pas. Dire, les autres, c'est pas normal. Non, mais performe déjà, toi. Là, aujourd'hui, tout n'est pas fait pour que ça performe. Avant d'avoir la suspicion. En revanche, on arrive d'un sport où le dopage a été très central. On ne peut pas être complètement ignorant et se dire tout va bien quand 2, 3, 4 phénomènes battent des records, écrasent tout le monde et surtout des équipes dominent. On peut pas. Il faut juste être vigilant pour pas perdre le fil et pas une nouvelle fois avoir une catastrophe. Alors, en revanche, Bernard Hinault, il dit ce qu'il veut, et les gens qui sont derrière la toile, souvent derrière des pseudos, qui savent, ben, qui viennent nous le dire s'ils savent.
Il y a Sam notamment qui nous appelle, et évidemment, enfin, c'est pas le, ni le procès de Bernard Hinault, ni le procès de ceux qui ont voulu réagir, parce que chacun a le droit de choquer par, a le droit d'être choqué par des propos. Sam nous appelle au 32-16. Salut Sam.
Oui, salut, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Sam. Jean-Christophe.
Bonjour Sam.
Bonjour, merci Jean-Christophe déjà de me permettre d'intervenir dans l'émission, parce que je suis un auditeur bah, effectivement de longue date, et je te remercie parce qu'on a échangé sur X, sur Twitter, de me donner la parole. Alors concrètement, moi je partage le point de vue effectivement de plutôt de Christophe, hein. Effectivement aujourd'hui, moi si je me suis permis de vous contacter au sujet de l'intervention hier du blaireau et des échanges que vous avez pu avoir avec lui hier matin, c'est parce qu'on a tous été un peu surpris, non pas par le point de vue d'Hinault, parce qu'on connaît le personnage, hein, comme l'a dit Christophe, et ses prises de position, mais davantage, si vous voulez, par l'absence de contradiction autour du plateau. Alors c'est vrai que Monsieur Pinault vient de présenter son point de vue auquel je me rattache pas mal, parce que loin de moi de l'idée de dire que Pogacar, Van Der Poel actuellement, ou même Alaphilippe, hein, parce qu'on parlait des cyclistes français.
C'est exactement ça l'argument, Sam. Tu as raison.
Voilà, Alaphilippe, il y a quelques années, il dominait le peloton mondial au niveau des classiques, de manière plutôt insolente, et effectivement, que ce soit lui ou actuellement des extraterrestres comme Van Der Poel ou Pogacar, ils n'ont jamais été contrôlés positifs. Moi, ce que je souhaitais simplement donner comme point de vue, c'est que la jurisprudence Armstrong, hein, qui n'avait jamais été contrôlée positif, et l'écart extraordinaire entre ces deux extraterrestres actuellement ou à la Flip il y a quelques années, et le reste du peloton, hein, qu'ils font passer sur certaines courses comme des cadets, hein, en attaquant à 80 km de l'arrivée et en mettant 3-4 minutes à des groupes de poursuivants qui se prennent des relais face au vent, hein, je tiens quand même à le rappeler, bah, devrait nous appeler à davantage de mesures, c'est tout, et puis effectivement à de l'esprit de contradiction, à des débats. Il y a des remises en question.
Mais il y a des institutions.
J'entends ce que tu dis, je me permets de répondre. Oui. J'entends ce que tu dis et c'est vrai. Oui. Mais dans ce cas de figure, j'aimerais savoir quelle contradiction tu apportes. Est-ce que la contradiction, c'est de dire à Bernard Hinault, attendez, Pogacar, vu ses performances, il est quand même un petit peu dopé. Si c'est ça la contradiction. Consentons bien, parce que si c'est ça la contradiction, on peut pas dire ça. Enfin, je veux dire, à part si on a des preuves, on ne peut pas tenir ce genre de propos.
Surtout que Bernard, il disait qu'il aimait ce genre de coureur parce qu'ils attaquaient à 80 km, parce qu'ils faisaient des choses.
Parce qu'il avait ressemble.
Parce qu'il lui ressemble. Oui. Et donc, à partir de là, il parlait pas que de dopage. Il dit, moi, j'adore ce coureur parce qu'à un moment donné, il ressent et tout, et il attaque, et sûrement son coach lui dit de pas attaquer, mais il attaque, il a un ressenti. Parce qu'il lui ressemble.
Parce qu'ils sont surdoués, parce que ce sont des garçons qui sont au-dessus de la mêlée. Mais encore une fois, l'argument, il est juste super de ce que vient de dire Sam. Si Pogacar s'appelle Dupont et qu'il est français, en France, ça nous gêne moins,
mais
ça
c'est sûr. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Bernard Hinault hier par rapport énormément à Alaphilippe.
Mais il disait ça sur Julien Alaphilippe.
On critique énormément une chose aujourd'hui, c'est le fait qu'il passe de tous les terrains, du pavé, aux Ardennaises et demain au Grand Tour, et qu'il gagne.
On a
une Française qui est en train de le faire cette année. Ça va arriver, peut-être. Elle gagnera Roubaix, presque les Stradé Bianche, et j'espère le Tour. Qu'est-ce qu'on va dire?
Moi, je pense pour abonder sur les propos qui viennent d'être tenus, que en fait, moi, ma position, elle est entre celle de Jean-René Bernodeau et celle de Christophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, vous avez Thomas Vauclair qui est intervenu dans un média sur un podcast. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Qui disait que Hinault peut pas dire fermez votre gueule, très concrètement. C'est un manque de respect vis-à-vis de la communauté vélo, c'est un manque de respect vis-à-vis des journalistes qui suivent le cyclisme au quotidien, du Tour de Flandre jusqu'au Tour de Lombardie. Parce que, très concrètement, aujourd'hui, Vauclair avait dit, de manière très transparente, oui, il faut qu'on s'interroge, oui, c'est pas normal qu'on soit personne depuis des années. Je sais pas si vous l'avez entendu, messieurs, mais c'est vrai que ce sont des choses, sans apporter la contradiction à Hinault, qui peuvent nous interpeller et nous dire pourquoi on chope personne depuis des années.
C'est vrai, ça.
Pourquoi, alors que les watts sont de plus en plus importants, alors que les vitesses sont de plus en plus hallucinantes, et alors qu'il y a de plus en plus de mecs qui attaquent à 80 km de l'arrivée seuls et qui n'arrivent pas à se faire rattraper par des pelotons de coureurs surentraînés.
Et Sam, sache, et je donne la parole à Philippe et aussi à Simon et Marion et puis Christophe qui ne sont pas beaucoup intervenus. Sam, on en parle beaucoup dans cette émission sur de la suspicion dans le vélo. On a beaucoup parlé aussi avec Sinner. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à nous écouter la semaine prochaine parce qu'on va avoir une heure exceptionnelle avec le patron de la médecine de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage. On reviendra sur le cas Sinner. On parlera du vélo, évidemment, avec Jérôme Pinault. Donc forcément, tous ces sujets sur le dopage sont très importants, sont pris en compte par nos GG. Philippe, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, mais sur Jean-René Bernardo, à un moment donné, il a eu des coureurs qui ont surperformé aussi, Thomas Vauclair, etc. Et là, il n'en parlait pas. Donc je pense qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de résultat, d'abord, il faut que tu te concentres sur ton équipe. Ça ne sert à rien d'aller taper sur les équipes adverses. Enfin, pour moi.
Oui, c'est vrai. Ça n'aide pas. C'est encore une fois, les propos tenus par Bernard hier sont délicats, mais ce journée ils le sont encore plus parce que lui il est en plus dedans quoi. C'est-à-dire que il lâche un truc, il sait qu'il est écouté. En France, on écoute Bernardo plus que Giannetti.
Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là hier, pour tous ceux qui n'ont pas entendu Jean-René Bernardo, parce que c'est important de replacer le contexte, je vais vous proposer de le réécouter parce qu'il parlait évidemment des performances de Pogacar et du doute évidemment autour de Pogacar.
Pogacar aujourd'hui c'est quelqu'un d'exceptionnellement fort. Il a une belle gueule, qui a une belle dimension, mais j'aimerais qu'il aille encore plus loin dans ce qu'est le vélo, ce qu'est le sportif de haut niveau, et qu'il donne des garanties. Il y a des gens qui l'ont fait. Le soupçon, on vit avec. On a quand même l'affaire Festina. On n'est pas à l'abri d'une autre. Je pense pas que le cyclisme a les moyens de se prendre encore un scandale. Il ressort à la tête de l'eau. L'AMA a été créé, le passeport biologique a été créé, le logiciel de localisation a été créé. On va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Il faut changer les lois. Je lui demande qu'il publie ses paramètres, qu'il publie ses watts, qu'il publie ce qu'il fait, et puis qu'on le stocke. Comme Félicien Ballonger l'avait dit, ceux qui ont des doutes, je suis à leur disposition dans 10 ans quand la recherche avancera.
Voilà. Et en tout cas, il parle de doute et ce sont les propos donc de Jean-René Bernardo. Vous savez quoi ? On va faire une petite pause et puis on revient dans quelques instants pour écouter Marion, Simon, Christophe et puis vous aussi au 32-16. Si vous voulez réagir évidemment aux propos de Bernard Hinault, aux propos de Jean-René Bernardo, eh bien on est là dans les grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h45, la dernière ligne droite avec... Jérôme Pinault aujourd'hui, Simon Dutin, Marion Bartoli, Philippe Saint-André et Christophe Sessieux qui fête ses 60 ans et on voulait déjà lui souhaiter et puis évidemment parler avec lui de Bernard Hinault et des propos qui ont beaucoup fait réagir hier. Simon et Marion, on vous a pas encore entendu sur justement ces propos de Bernard Hinault. Simon Dutin.
Moi d'abord, je voudrais mettre un petit peu de mesure dans les attaques sur les propos de Jean-René Bernardo. Je trouve qu'ils sont un petit peu maladroits, mais on l'a entendu, c'est un montage, c'est quand même coupé. Il dit quand même beaucoup de choses avant de parler de sous-entendre qu'on peut légitimement avoir des soupçons. Il dit quand même que Pogacar est plus fort, que Pogacar est un phénomène, que tout ça. Et voilà. Cela étant dit, je comprends, j'entends la suspicion. Moi, je suis un peu mal placé. Je suis un béni oui-oui, un ravi de la crèche, appelez ça comme vous voulez. J'ai jamais voulu y croire jusqu'à ce qu'on me montre les preuves. Et dans le cas de Pogacar, moi qui ai un coureur que je trouve fabuleux, c'est le plus grand coureur que j'ai vu évoluer depuis que je m'intéresse au cyclisme. J'ai encore une fois, évidemment, pas envie d'y croire. J'ai envie de croire que c'est un phénomène à la Bernard Hinault, que des mecs comme ça, il y en a tous les 20, 30 ans, et que, voilà, il est simplement plus fort, que c'est un phénomène. Mais je pense qu'on a appris des erreurs du passé, parce qu'on dit, regardez, c'est arrivé. Mais oui, c'est arrivé, mais depuis, il y a des instances qui ont été créées. Je pense que des procédures ont été mises en place. Pogacar, comme disait Bernard Hinault, il y a des gens qui peuvent débarquer à 6h du mat chez lui en disant, monsieur, il faut faire pipi dans la bouteille et faut nous donner votre sang. Donc je pense que c'est plus dur qu'à une certaine époque de tricher. Je pense que Pogacar, il a grandi justement. Enfin, c'est plus dur pour des gens comme ça d'avoir envie de consacrer leur vie au vélo parce que c'est un sport sur lequel le prob a été jeté et puis qui est pointé du doigt. Donc j'ai envie de croire que les champions de la nouvelle génération, ils ont grandi en se disant nous on va réhabiliter cette noble discipline, on va en faire une discipline à nouveau propre. Donc j'ai pas envie qu'on tombe sur Jean-René Bernardo qui, je pense, a fait aussi beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour le cyclisme français. Et voilà, je pense qu'il faut en effet en finir. Moi, je supporte pas quand des gens qui n'aiment pas le cyclisme disent « Ah ouais, encore votre sport de dopé, ah tu t'intéresses à ce sport de dopé ?» Je trouve ça horrible de résumer cette magnifique discipline à ça, et j'en ai un peu ras-le-bol. Qu'on nous apporte des preuves qu'un tel ou un tel a triché, mais tant qu'il n'y a pas de preuves et tant que personne se fait attraper.
Donc, toi, t'es Jean-René Bernaudot ou Bernard Hinault?
Ah, moi, je suis Bernard Hinault, moi.
D'accord, non.
Tu m'as jamais vu sur mon vélo électrique?
Mais il défend quand même Jean-René Bernaudot. Voilà.
Non, mais j'ai pas envie que.
Tu aimes les deux, voilà.
Bon, voilà. Je pense qu'il y a plus de maladresse dans ses propos que de volonté, okay, de pointer du doigt.
On va accueillir Jean-Marc aussi qui nous appelle au 32-16, mais Marion avant.
Alors moi je suis complètement d'accord avec Simon. En plus effectivement on a eu la chance de recevoir Pogacar et très sincèrement on lui a pas posé bien sûr que des questions sur le dopage. L'interview a duré 25 minutes, mais on sentait vraiment lorsqu'on lui a posé la question sur le dopage, parce que ça nous paraissait important quand même de le faire, qu'il y avait une réelle envie de réhabiliter ce sport et de se dire qu'effectivement ils allaient continuer à payer malheureusement les erreurs du passé, qu'ils acceptaient qui est de la part du grand public ou même parfois de patrons de grandes équipes des soupçons sur les performances, mais qu'ils désiraient du plus profond de leur cœur faire les choses vraiment de la manière la plus propre possible et d'en donner les preuves. Alors après, publier les watts, etc., là où je trouve que Jean-René va un petit peu trop loin, c'est-à-dire que c'est plus que du soupçon dans ce qu'il dit. En fait, c'est quasiment de dire,
comment il s'entraîne?
T'es coupable.
Voilà.
Prouve-nous ton innocence.
T'es coupable. Donc, prouve-nous que t'es pas coupable. Et ça me dérange un tout petit peu parce que je pense que le vélo a déjà beaucoup souffert de ça et que c'est pas le moment, alors qu'il y a un engouement populaire énorme autour de Van der Poel, de Pogacar, de Evenepoel, de auparavant Julien Alaphilippe, quand on voit aux Jeux Olympiques l'épreuve de cyclisme, l'engouement populaire qu'il y a eu à tel point, sur la butte Montmartre, les rues complètement pleines en train de soutenir les cyclistes. Je pense que c'est ça l'image du cyclisme qu'il faut entretenir aujourd'hui.
Oui, mais il faut pas avoir des œillères non plus.
Le soupçon en permanence. Oui, mais pas le soupçon permanent, voilà, comme ça non plus. Il faut être vigilant, il faut faire les contrôles, il faut continuer d'essayer de mettre de plus en plus de restrictions possibles, de plus en plus de barrières, faire ce qu'ils font, faire ce qu'ils ont fait. Le passeport biologique, qui est quand même la meilleure manière de voir s'il y a des différences importantes dans un bilan sanguin ou pas, parce qu'à un moment donné, s'il y a du dopage, ça sera forcément du dopage sanguin, quoi qu'il arrive, ou du dopage génétique. Donc avec un passeport sanguin, tu t'en aperçois, surtout si c'est dans des contrôles extrêmement réguliers. Faire les choses comme ça, oui, bien sûr, mais pas jeter en pâture, entre guillemets, donne-nous tes watts, parce que bon, t'es coupable, et
il les donne les watts, Marion. Il les donne. Il y a de la transparence jusqu'au secret de la préparation. Mais c'est une évidence que t'avais Pogacar, il n'a pas envoyé ses prises de sang au peloton pour savoir si ça va bien ou pas. Enfin, c'est débile.
Christophe, toi qui couvres le Tour de France depuis de longues années sur RMC, est-ce que tu sens que parfois et de plus en plus le public est suspicieux?
Non, je le trouve pas très suspicieux le public. C'est plutôt l'entourage du cyclisme qui est suspicieux. C'est les gens qui d'abord aiment bien taper sur ce sport parce que c'est facile, c'est une proie facile. De toute façon, le cyclisme c'est un sport de dopé, donc de toute façon ces gens-là tu les auras toujours. Il y en a aussi, il y a certains anciens entraîneurs notamment qui font leur blé là-dessus, c'est-à-dire que ils publient des choses sur les réseaux sociaux qui font que la suspicion est encore amplifié à chaque fois, mais ils font leur beurre en fait. C'est devenu leur métier de lancer des suspicions comme ça sur Pogacar et sur le cycliste qui domine la planète. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Pogacar. Avant, c'était Chris Froome. Avant, c'était Contador. Et tous ces grands champions ont été sujets aux doutes et aux soupçons. C'est pas nouveau, hein, Pogacar. C'est pas le premier grand cycliste à être soupçonné de dopage alors qu'on a rien trouvé sur lui.
Bon, Contador, c'est un mauvais exemple pour le coup, mais.
Pardon?
Contador, c'est un mauvais exemple.
Oui, Contador a été
confondu.
Chopé par la patrouille avec ce steak contaminé. mais je n'ai pas l'impression, moi, quand on voit les spectateurs sur le bord des routes, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus suspicieux qu'avant. En fait, t'as deux populations qui s'opposent, c'est-à-dire ceux pour qui le cyclisme sera toujours un sport de dopé et ceux pour qui il faut surtout pas mettre en doute les performances des uns et des autres. Et t'as très peu de gens qui sont au milieu, en fait. Donc c'est deux mondes qui s'opposent.
Et Christophe, tu pourras aussi toi confirmer ce qui est le plus gênant, encore plus gênant, c'est que ça vient souvent du milieu et que les gens qui critiquent l'étalon, c'est le premier coureur français. S'il est loin, c'est qu'il y a de la suspicion. Mais c'est fou. Sauf s'il s'appelle Mathieu Van Der Poel. Parce que j'en reviens toujours à la même chose. On critique, on dit Pogacar, mais sur les trois premières classiques de l'année, deux ont été gagnées par Mathieu Van Der Poel. Et ça posait problème à personne parce que papy, c'est Poulidor, donc ça passe.
Les copains du vélo, juste avant d'accueillir Jean-Marc, je voudrais vous poser une question très sérieuse. Est-ce que vous tomberiez de l'armoire si on apprenait, comme Armstrong, que Pogacar s'est dopé? Est-ce que vraiment vous tombez de l'armoire?
Ah bah non, moi non. Non.
Moi non plus.
J'ai dit qu'il fallait être vigilant. Non, je ne tomberais pas de l'armoire.
Vous tomberiez pas de l'armoire.
Comme on tomberait pas de l'armoire si on apprenait que le plus grand tennisman de la planète était contrôlé positif.
Comme si on apprenait
que le champion du 10 000 mètres tombe pour dopage. Je veux dire, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis le temps, on tombe plus de l'armoire quand il y en a un qui tombe. Voilà, c'est tout.
Jean-Marc, comme c'est sûr positif à l'alcoolémie le lendemain.
Il y a encore un peu de kérosène dans le réservoir. On tomberait l'armoire s'il était sobre. Avec modération évidemment, mais n'allez pas chez Christophe Cessieux.
N'allez
pas triquer chez lui.
Jean-Marc qui s'appelle au 32-16. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour. Alors, entendons-nous bien, moi j'adore le sport. Bonjour, je pratique le sport à haute intensité. Malgré mon âge avancé, j'ai également une anomalie génétique. On parlait hier d'Anna Rino, parce qu'au sujet de sa VO2 max, Anna Rino avait 90 de VO2 max. Moi, à 52 ans, j'en avais 82. Donc, je sais ce que c'est que de forcer et d'avoir des facilités génétiques. Mais Bernard Hinault, il ne veut pas parler dopage parce que Bernard Hinault, il sait très bien ce qui se passe toujours dans le monde du vélo. Et entendons bien, j'adore le vélo, j'adore le Tour de France. Et c'est des sportifs qui travaillent dur et c'est un spectacle qui est mondial, qui est merveilleux. Mais Bernard Hinault, il part du principe que c'est toujours le meilleur qui gagne. Le meilleur ou le plus intelligent, celui qui sait mieux s'armer d'entraîneur, peut-être qui sait mieux s'armer aussi de préparateur et physique et de médecin. C'est pour ça que Bernard Hinault ne veut pas parler en fait de dopage. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a de la jalousie. Parce que moi, j'avais déjà entendu des coureurs français qui avaient été pris pour dopage. Et à l'époque d'Armstrong, ils avaient dit si j'avais pu prendre les produits que Lance prenait, je les aurais pris. Après, physiologiquement, je crois que vous allez recevoir un médecin dans une semaine. Vous lui demanderez si quelqu'un de 65 kilos, comme Pogacar ou un autre, il peut tirer du 500 watts pendant une heure et demie. Ça équivaudrait à une VO2 max de 110 ou 220, ce qui n'est pas possible. Voilà. Après, je ne veux pas jeter l'opprobre.
Alors par contre, excuse-moi, mais sur les chiffres, soit on est clair, soit on n'en donne pas. Parce que amène-moi la preuve que Pogacar a tiré plus de 500 watts sur une heure et demie. Et là, on verra. Mais ces chiffres-là, tu les as pas parce que c'est pas possible. Et tu sais très bien.
L'an dernier, on les a eu, excusez-moi.
Alors, pendant une heure et demie à 500 watts. Moi, je veux la preuve.
Quand il a monté l'an dernier,
quand on avance des chiffres, faut être précis. On peut pas donner dans un sujet aussi précis que celui-là. On peut pas annoncer des 550 watts ou 500 watts sur une heure et demie. C'est 1h30, c'est très long. Et ça, c'est pas possible.
De Jean-Marc.
Si tu fais que parler, regarde l'an dernier les chiffres de Saint-Lary. Quand il a battu le record Armstrong de 2 ou 3 minutes, et regarde les chiffres qu'il a fait sur l'Alpe d'Huez. Et tu demandes à un médecin. C'est tout. Après, attention, moi j'adore Pogacar. C'est un mec qui amène énormément au vélo parce que c'est un puncher, il part de 80 km de loin. C'est un mec que j'adore. Attention, Pogacar, je ne suis pas là en train de critiquer. Attention.
Mais tu affirmes que ce n'est pas possible ce qu'il fait.
Si, c'est possible, étant donné
que. Tu viens de me dire que les chiffres expliqués par un médecin n'étaient pas possibles.
Mais il n'y a pas que lui, les autres non plus. Non, mais je pense que c'est quand même le meilleur.
Et c'est pour le meilleur est dopé.
Mais non, mais. C'est cool. Non, mais vous pouvez me faire dire. Mais attendez, moi je pratique avec des gens de haut niveau, je ne vais pas citer les noms. Des fois, il me dit qu'on voit aux Jeux Olympiques. Si tu veux aller en finale, si tu vas avec un couteau, tu vas pas. Les mecs, ils ont une Kalachnikov. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Mais non, mais c'est pas grave. C'est comme ça.
Ce serait grave. Jean-Marc, si. Enfin, je veux dire, on aime le sport. Sinon, on fait les jeux des dopés prévus par la famille Trump aux États-Unis. Et puis, dans ces cas-là, on se dit que c'est pas grave. Si on fait une compétition, enfin, je m'adresse aux sportifs.
Non, mais c'est très grave.
Ça reste grave quand même, les copains.
Parce que figure-toi que dans ce groupe de coureurs qui participent au Tour de France, il y a beaucoup de coureurs qui font ça très bien. Et eux, ils vont pas accepter que toi, tu trouves pas ça grave. Soit on a affaire à des champions,
Et ils sont tous pareils. Moi, ce que je crois, c'est que on a un phénomène sur ce, dans cette génération, il y a deux, trois phénos. Évidemment que s'il y avait un problème, je tomberais pas de l'armoire.
Je suis désolé, Jean-Marc. Évidemment, on te redonnera la parole une prochaine fois. Tu nous rappelleras pour nous parler de ça quand on en parlera. Ce sera avec grand plaisir. Jean-Marc disait qu'il avait un âge avancé. C'est vrai.
C'est je sais où tu vas en venir. Donc tu vas te taire maintenant, tu arrêtes.
C'est vrai parce que Jean-Marc a 60 ans. C'est fini. Donc on applaudit quelqu'un qui a un âge avancé, c'est Christophe Cessieux. Bon anniversaire, Issa Dissa.
Ils ont pas la même VO donc.
C'est la même VO de Max, moi, t'inquiète.
On t'embrasse pour Christophe.
Et vous entendez la chanson là, ça.
Il y a un retour à 60 ans, c'est comme un mariage quoi. Il y a un retour là ce midi là.
Non. En fait, j'ai décidé de fêter pendant un an mon 60e anniversaire. Donc pendant un an, je vais le fêter donc régulièrement.
Vivement cet été alors.
Et on va notamment le fêter cet été, Jérôme. Je te signale pendant ton
avec lui. Donc là, je me prépare.
Je vais préparer la VO2. On t'embrasse bien fort.
À la semaine prochaine, les copains.
Merci beaucoup les GG. Allez, je rends vite. On est très en retard. Je vous embrasse tout de suite les paris RMC.